Bonjour, bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Le pectoral d'Exode 28-15, un enseignement de contemplation, mais aussi d'aspects pratiques pour votre vie chrétienne.
Au sujet de l'intercession dont nous avons parlé, d'avoir besoin d'un intercesseur sur la dernière pierre qu'on avait vue, la sardoine, première pierre du pectoral, un des points qu'on avait vus était celui-là. Et j'ai relevé encore quelques points à ce sujet-là. Il y a Moïse qui apparaît comme un véritable intercesseur en faveur d'Israël à quelques occasions. C'était des moments de contestation pour le peuple d'Israël, des moments de murmures, de plaintes, où ils avaient des besoins, c'est vrai aussi, une grande soif, il n'y avait pas d'eau. Et puis, par exemple, aussi lors du combat contre Amalek, dans Exode au chapitre 17, bien, Moïse intercède les mains levées, mais jusqu'à ce qu'il soit fatigué, que finalement Aaron et Hur et peut-être d'autres vont placer une pierre de façon à ce que Moïse puisse s'asseoir sur cette pierre-là et pouvoir triompher ayant les mains soutenues par les aides qui étaient à côté de lui. Donc, ils étaient assoiffés dans ce chapitre 17, on voit Israël, et là, pour pouvoir rencontrer leurs besoins, Dieu dit à Moïse, bien, frappe tel rocher, et puis ils vont avoir de l'eau. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Et dans le chapitre 32, plus loin, bien là, on voit, c'est l'événement du veau d'or. Israël se fait une idole, ce que Dieu avait interdit dans sa loi. Il fait un veau d'or en disant, ben, c'est ton Dieu qui t'a délivré de l'Égypte. Alors, ce n'était pas une très bonne chose de faire ça. Et puis là, Moïse, il est vraiment conscient que le peuple a commis un grand péché. Et il va voir Dieu, il dit, ils ont commis un grand péché, voici ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur dit, Moïse demande au Seigneur, bien, pardonne leur péché, sinon efface-moi de ton livre de vie. Imaginez quelle place Moïse prenait. Il était prêt à ce que son nom soit effacé du livre de vie pour pardonner le péché du peuple d'Israël. Incroyable. Alors, à une autre occasion, dans Nombre 20, il se retrouve encore Israël dans un désert et ils n'ont pas d'eau. Et ils demandent encore, et puis Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, non pas de frapper le rocher rendu dans cet endroit-là, dans le désert de Tsin, mais de parler au rocher. Et malheureusement, à cause de l'exaspération, des murmures constants de ce peuple, Moïse est exaspéré et il va perdre patience et il va frapper le rocher. Et de l'eau va quand même sortir pour abreuver le peuple en entier, un peuple quand même, on pense, de 2,5 millions personnes à peu près, là. C'était considérable. Mais Dieu avait dit de parler et de ne pas frapper parce que c'était prophétique ce rocher-là. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, dit que c'est Christ, le rocher spirituel qui suivait Israël dans ses pérégrinations dans ses anciens temps, dans le désert. Donc, comme quoi, après sa mort, parce qu'il a été frappé une fois, oui, c'est vrai, bien, et sa résurrection, mais maintenant, on a juste à se confier en lui. Il est mort seulement une fois. Il ne mourra pas une seconde fois. Et puis, on peut l'invoquer, le ressusciter. Et c'est ça un peu la leçon ici. Donc, je voulais parler par rapport à cette intercession de Moïse, un intercesseur. Israël a été chanceux d'avoir cet intercesseur pour lui. Aujourd'hui, maintenant, on est rendu à la deuxième pierre du pectoral, la topaze. C'est le titre que je donnerai à cet enseignement pour cette pierre, pierre de la recherche et du sens. Alors, ça va être notre premier point concernant cette pierre. Il y a un autre tome qui n'est pas dans notre livre, le pectoral d'Aaron. J'ai mis, pour commencer, 12 chapitres. Parfois, il y a deux dans un chapitre. Par exemple, pour la sardoine, on a vu qu'il y avait deux tomes là. Mais parfois, j'ai écrit les tomes un peu plus tard que l'écriture du livre, le pectoral d'Aaron. Donc, c'est disponible en fascicule dans d'autres écrits. Alors, on continue encore dans Exode, chapitre 28, où on trouve description du pectoral. Et au verset 17, Dieu disait à Moïse, « Tu y en chasseras une garniture de pierre, quatre rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. » Donc la topaze, c'est celle du milieu, la deuxième pierre. L'hébreu se lit toujours de droite à gauche, n'oubliez pas. Alors en latin, c'est topazus, en hébreu pitda, en grec topazion. Sur l'échelle de dureté du professeur Maud, une échelle de 1 à 10, elle est chiffrée à 8. Quand même assez dure. Alors dans les anciens temps, elle était connue comme une variété jaune des corindons ou jaune verte identifiée à la chrysolite ou au péridote du groupe des olivines. Elle est aussi une pierre d'ornementation du 9e fondement de la Nouvelle Jérusalem qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 21, versets 19 à 20. Et pitda de l'hébreu signifie le jaune. Topazos du grec signifie chercher et trouver. Cette deuxième pierre du pectoral, gravée dans l'ordre des naissances des 12 fils d'Israël, portait le nom de Siméon, Exode 28, versets 15 à 21, qui signifie « qui écoute, qui a été entendu ». Vous pouvez voir dans Genèse 29, 33. L'origine de cette pierre, c'est cette légende qui raconte que des naufragés ont autrefois échoué sur une île de la mer Rouge. Ils ont découvert une pierre précieuse qu'ils nous ont alors appelée, ils ont appelé l'île et la pierre Topazos, qui veut dire « chercher et trouver ». Plusieurs de ceux qui sont croyants aujourd'hui ont d'abord été des naufragés dans un sens spirituel. Je veux dire que leur vie a été un échec avant de connaître Dieu comme il faut. Tous n'ont pas ce même cheminement, et heureusement. Mais plusieurs doivent arriver à ce stade où ils n'ont plus d'autre recours que de seulement espérer en Dieu pour leur situation. C'est un stade où ils arrivent enfin à reconnaître pleinement leurs besoins du Seigneur. Le neuropsychiatre et éthologue français Boris Cyrulnik a dit que l'être humain a besoin de deux éléments majeurs pour le faire vivre et même survivre aux pires épreuves de la vie. Il a besoin premièrement d'affection et sa vie aussi a besoin d'un sens. C'est Albert Camus, écrivain français de 1913 à 1960, qui a dit qu'il faut savoir si la vie a un sens pour être vécue. Dans l'épreuve, heureux celui qui a quelqu'un pour le soutenir, pour lui prodiguer affection, compassion et soutien. Mais plus que la tragédie et l'épreuve, celui qui traverse ces événements doit percevoir un sens qui transcende tout cela. Jules Michelet, historien français de 1798 à 1874, disait que la vue, par exemple, est le sens de l'oiseau. En volant, lui, il est au-dessus d'une grande étendue et il peut en voir davantage. C'est pour cela que les hommes, par exemple, ont placé aussi des satellites dans l'espace, entre autres pour observer davantage de surface de la Terre et avoir meilleure fenêtre sur l'espace. Je suis en train de dire que l'être humain doit parvenir, si je peux m'exprimer ainsi, au sixième sens, au sens spirituel, c'est-à-dire voir plus loin et comprendre que Dieu existe et qu'il peut faire la différence dans son existence et dans tout ce que l'être humain peut vivre sur cette planète. Il doit, dans ses réflexions, chercher et trouver Dieu. Dieu lui-même a dit par le prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 13. Lorsqu'il dit « Vous me chercherez », le mot peut être traduit aussi par « redemander ». Cette recherche de Dieu ne doit pas être superficielle comme tant de gens qui font appel à lui seulement dans le besoin grave, s'en remettant à lui toujours comme une manette d'urgence. Non, la recherche sincère de Dieu doit le demander et le redemander, comme Jésus-Christ l'a enseigné lorsqu'il parlait de la prière à ses disciples. Il dit dans le chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il y a un sens à ta vie, quoi que tu puisses vivre. Topaz, pitda de l'hébreu, signifie jaune. Jaune, c'est une couleur lumineuse, claire. Ceux qui cherchent sincèrement et humblement Dieu, il va leur envoyer sa lumière dans leurs ténèbres. En parlant du Sauveur qui devait venir, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a annoncé le Christ comme le soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » L'Évangile de Luc, 1er chapitre 78 et 79. Jésus-Christ peut éclairer nos ténèbres, quelles qu'elles soient. Il peut te faire sortir de l'ombre de la mort. Certains sont comme la topaze dans leur recherche et leur quête de sens. À ces personnes, le Seigneur se révélera en envoyant sa lumière. Celui qui recherche doit aussi user de ses sens. Et un des cinq sens, c'est lui, l'écoute. La topaze, la pierre de l'écoute, c'est notre deuxième point. Sur la topaze, il y avait le nom de Siméon qui signifie « qui écoute et qui a été entendu ». Lorsque nous croyons en Dieu, nous le prions, nous lui parlons. Mais non seulement cela, nous écoutons aussi sa voix. La voix de notre conscience nous parle et la voix de Dieu également, la voix de son esprit. Le prophète Ésaïe a dit dans son livre au chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Alors, la langue du prophète pouvait apporter soutien et encouragement parce qu'il avait d'abord une écoute attentive chaque matin. Pour nous, pour toi, qu'est-ce qui se présente ou va se présenter aujourd'hui devant nous, devant toi sur ta route, devant ce que tu auras à répondre ou à réagir, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons écouter. C'est peut-être une personne qui n'est pas très loin de nous, qui a un problème. Ça peut être dans notre famille, ça peut être là où nous sommes au travail, ça peut être dans le voisinage, ça peut être ailleurs aussi. Ted Haggard a raconté qu'à un moment donné durant les publicités de Noël pour son église, une femme aveugle a appelé parce que son chien guide venait de mourir. Elle a carrément dit au conseiller au téléphone « Mon besoin le plus pressant n'est pas le salut de mon âme, mais plutôt un nouveau chien. » Ça sous-entend, n'est-ce pas, que lorsque les gens appellent à l'Église, ils s'attendent à ce qu'on leur parle du salut de leur âme. Mais pour cette femme, aveugle, son besoin, c'était d'avoir l'aide d'un chien, un chien guide. Alors l'Église s'est renseignée à ce moment-là sur le type de chien nécessaire, et il l'a trouvé dans la semaine suivante et il l'a fait livrer chez cette femme. Cette femme n'a pas prié tout de suite, elle n'a pas accepté Christ à ce moment-là. Néanmoins, l'Église a été à l'écoute de son besoin et ce geste peut, hein, espérons, par la suite disposer cette femme à venir au Seigneur. Son esprit peut nous diriger, nous parler, mais il faut être à son écoute. Il faut y être sensible. On vit dans un monde actuellement qui nous désensibilise, hein, trop souvent par toutes les images, toutes les choses que nous voyons à la télévision, ou ailleurs, et nous devenons insouciants, indifférents parfois. La topaze portait le nom de Siméon, qui signifie « écoute », qui écoute et qui a été entendu. Parce que le Seigneur est juste et dit dans sa parole, dans Proverbe 21:13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre ou à l'indigent, criera lui-même et n'aura pas de réponse. »
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Brochu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@commercial.gmail.com.
Thank you.